Bonjour à tous. On va changer un peu de domaine d'intérêt avec cette communication que nous faisons à deux voix avec Stéphanie Leroy et on essaye de vous donner quelques éléments de réflexion, je dis bien éléments de réflexion au sujet de nos approches qui concernent les études des réseaux de production et de circulation pour les objets en fer. Alors on fait cette présentation à deux voix. Mais en fait, il va sans dire, enfin c'est mieux en l'écrivant, c'est ce qu'on a fait dans la slide d'ailleurs, que c'est une réflexion qui est issue d'échanges, de travaux menés au sein notamment du LAPA, mais également dans d'autres laboratoires, avec un grand nombre de personnes qui sont impliquées dans ce type d'études, et on les remercie en préambule pour cette participation. Alors, la question qui nous occupe de notre côté, c'est de comprendre les réseaux de production et d'échange en ce qui concerne les matériaux ferreux et les objets ferreux. Alors, depuis les gisements de minerais, en passant par les sites de production où le minerai est transformé en métal, mais également des sites intermédiaires de production où des demi-produits métalliques peuvent être réassociés et redirigés vers d'autres sites que l'on va considérer comme étant de consommation. De l'habitat, par exemple, sur lesquels on va trouver des objets. Alors, le moyen pour faire ça, c'est de comprendre les relations chimiques entre ces différentes entités, et notamment à travers l'analyse élémentaire. On pourrait transposer ça à l'analyse isotopique également, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais les réflexions qu'on va vous donner, vous verrez, sont tout à fait transposables à ce type d'approche. Alors, pourquoi c'est possible de regarder les relations chimiques entre ces entités? Je vais vous dire quelques mots sur la façon de fabriquer du fer pour vous fixer un petit peu le contexte. Le minerai n'est pas, enfin le métal n'existe pas dans l'état natif sur Terre. Il est présent sous forme de minerai associé, je fais ça dans les grandes lignes, hein, associé à de l'oxygène. Et lors d'une opération de réduction qui a lieu dans les fourneaux, des bas fourneaux sur les sites de production, cet oxygène s'associe au monoxyde de carbone issu de la combustion de charbon de bois pour libérer le métal. Alors d'autres éléments qui sont présents dans ce minerai, qui en composent la gangue notamment, ne sont pas réduits et ne passent pas dans le métal, et donc vont former ce que l'on appelle la scorie. Et cette scorie, ce sont des vestiges que l'on retrouve sur les sites de production. Alors, les températures dans ces bas-fourneaux sont relativement basses, ce qui fait, pardon, que ce métal est obtenu à l'état solide et qu'il va piéger un certain nombre de microparticules de scorie au sein du matériau métallique. Alors, ces microparticules de scorie, qu'on appelle nous les inclusions, malgré la volonté d'épuration du forgeron pour transformer son demi-produit, sa loupe de métal, puis son demi-produit en objet fini, eh bien, elles vont perdurer au sein du matériau et elles vont pouvoir être étudiées, mesurées, et on va pouvoir comparer la composition de ces inclusions à celle du minerai, d'une part, et des scories, d'autre part.
Donc on a ici, comme le disait Philippe, des scories et des métaux ferreux qui contiennent sous la forme des inclusions hein, des empreintes chimiques qui sont donc liées à la fois aux techniques de production et à la nature des minerais utilisés pour fabriquer le métal. Il est en fait possible de définir des signatures chimiques de ces ensembles qui reflètent donc l'origine des procédés et des matières premières utilisées. Et ces signatures vont se matérialiser, hein, comme on peut le voir ici sur la diapositive, sous la forme de nuages de points qu'il va être possible de comparer grâce à des statistiques descriptives multivariées, dans l'objectif précisément d'identifier les relations chimiques, c'est-à-dire d'identifier des similitudes ou des différences entre des groupes chimiques. Et cette comparaison, elle se joue généralement entre des objets qui sont retrouvés en contexte d'utilisation et dont nous cherchons à retrouver hein, les traces de cette origine, et des ensembles de provenance connues. Donc généralement, il s'agit de lieux de production, de gisements géolocalisés, voire d'objets eux-mêmes hein, dont la provenance est connue et dont les signatures vont se constituer ici en tant que référentiel chimique. Et donc l'un des enjeux pour l'archéométallurgiste, c'est vraiment de construire son ou ses référentiels, en quelque sorte sa grille de lecture qui va lui permettre de tester ses correspondances chimiques pour pouvoir attribuer chimiquement des appartenances au référentiel. pour remonter à des informations de provenance. C'est bon ? Donc, ainsi, la grille de lecture de l'archéométallurgiste, donc le référentiel qui est construit, il est souvent propre à la question qui est posée en amont. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la question de l'origine, elle peut avoir différentes portées. Alors, qu'il s'agisse d'identifier un atelier de production à l'origine du métal, destiné à fabriquer l'objet, ou une zone comprenant plusieurs sites de production, comme on peut le voir ici avec les différents liens qui sont mis en évidence, ou encore un minerai qui est exploité et utilisé au sein d'ateliers. Alors, ce ne sont ici que des exemples, mais il y a vraiment un faisceau de possibilités de relations à étudier, et ce faisceau de possibilités va se refléter finalement dans la construction du référentiel, qui va devoir inclure les particularités des contextes et des structures qui sont interrogées. Et de plus, on en a parlé un tout petit peu, l'approche de comparaison des signatures, elle repose sur l'utilisation des outils de la statistique multivariée. Donc les résultats des correspondances chimiques qu'on va pouvoir mettre en évidence vont dépendre vraiment de la structure initiale des données qui composent nos référentiels. On a donc ici des éléments d'acquisition, de structuration de la donnée et d'interprétation des résultats qui sont interconnectés. Et dans les faits, il est aussi important de mentionner que les études de provenance, elles sont inscrites dans la durée pour rendre possible l'accumulation des données et des connaissances acquises, que ce soit du point de vue des fouilles archéologiques, des prospections et de l'analyse chimique elle-même. Et donc, puisque ces recherches sont amenées à appréhender ces thématiques de réseaux d'échanges d'une manière un peu différente au sein d'une même région, on a des chronologies différentes, on peut trouver un intérêt à s'intéresser à une seule et même région métallurgique, mais en posant la question de provenance de manière différente. Ce qui n'est pas sans poser quelques questions du point de vue de la méthodologie et de la construction des référentiels mis en œuvre. Donc, pour donner un exemple, pour illustrer ce propos, je vais parler d'une recherche qui s'est intéressée en 2010 à la description du commerce du fer en Ariège, comme on peut le voir ici, qui était une région sidérurgique majeure à l'époque médiévale et qui est connue pour l'exploitation intensive d'un gisement qui est la mine de Morancier qu'on peut voir dans la région du Vic de Sceaux, donc je n'ai pas la main sur l'écran. Et l'idée était vraiment ici d'étudier la question de l'exportation de ce minerai, du minerai qui est issu de ce gisement, et d'identifier surtout les ateliers de production alimentés par ce minerai, que ce soit à l'échelle locale ou à plus longue distance. Donc ici, on s'intéresse plus particulièrement à la relation minerai-site de production. Donc l'un des référentiels chimiques qui a été constitué permettait spécifiquement de répondre à cette question en intégrant dans le référentiel les empreintes chimiques issues des minerais et des ateliers aussi alimentés par ce minerai. Ça, c'était en 2010, mais on sait que cette région ariégeoise, elle a aussi été investie par l'industrie métallurgique, donc depuis l'Antiquité jusqu'à la période moderne, et fait donc l'objet encore aujourd'hui d'études à plus grande échelle, notamment dans les Pyrénées. Je peux passer à la slide suivante. Et donc le référentiel qui a été constitué en 2010 pour répondre à cette question que je vais appeler Q1, relation minerai-atelier de production, est aujourd'hui disponible en tant que jeu de données pour être utilisé pour tester des hypothèses de provenance, puisqu'il reflète dans une certaine mesure une empreinte géochimique des minerais de la région. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ce référentiel est suffisamment représentatif pour répondre à une question un peu plus générale, que je vais appeler Q2, et qui s'intéresse plutôt à la provenance d'un objet, à une région de production, et qui demande d'interroger l'attribution chimique à une échelle beaucoup plus globale. Tu peux passer. Et ce paramètre de représentativité, il est perceptible pour nous à différents niveaux. Alors, dans un premier temps, en termes de nombre d'échantillons représentatifs d'un contexte de production du point de vue de la chronologie, d'une géolocalisation pour les sites en activité. Ils constituent le référentiel qui sont utilisés, constitue en quelque sorte un état des connaissances qui est certes amené à évoluer au cours du temps, mais qui implique toujours une part d'inconnu. Alors quand je dis inconnu, c'est-à-dire des sites qui sont potentiellement à l'origine d'une production mais qui ne sont pas caractérisés, voire qui ne sont pas identifiés. Donc les référentiels avec lesquels nous jouons sont dans la plupart des cas partiels, voire partiaux. Dans un deuxième temps, cet état fragmentaire des référentiels aura une incidence directe dans la comparaison statistique des signatures chimiques, puisque tous les domaines des possibles en termes d'attribution chimique ne sont pas inclus dans l'analyse. Et il faut savoir que ce n'est pas sans ambiguïté méthodologique, puisque les outils courants de la statistique ne permettent pas encore aujourd'hui de prendre en compte, de manière fiable en tout cas, cette part d'inconnu au risque vraiment d'aboutir à des interprétations d'attribution qui sont biaisées, ce qu'on peut voir souvent hein, dans certains cas d'études. Et enfin, du point de vue de la qualité de la donnée chimique elle-même, puisque ici nous avons affaire à la construction d'un référentiel chimique cumulatif et évolutif qui est construit dans le temps, et on est parfois amené à comparer des données qui sont aussi issues d'analyses anciennes. Donc il n'est pas rare d'être confronté à des jeux de données inégaux et hétérogènes. On a aussi des données de composition qui peuvent tout simplement être absentes puisque leur analyse ne représentait pas d'intérêt alors pour répondre à une certaine problématique de provenance. C'est bon pour moi.
Alors pour illustrer tout ça, à la fois et principalement le fait que ces référentiels soient évolutifs, comme vous l'avez expliqué Stéphanie, on peut donner l'exemple des études qui ont été faites autour de la minette de Lorraine, qui est un minerai phosphoreux assez typé, situé, comme son nom l'indique, en Lorraine, et les études vraiment fondatrices qui ont été faites par Marc Leroy et Cécile Le Carrier depuis les années 1980. Alors ce minerai, la question qui se posait alors, c'était vraiment de savoir si ce minerai avait été utilisé, et en particulier par rapport à un autre minerai qu'on appelle le fer fort, qui n'a pas du tout les mêmes compositions en éléments majeurs. La minette est très typée, je viens de le dire, avec une forte teneur en phosphore et en calcium, ce qui n'était pas le cas du fer fort. Et à l'époque, leurs approches ont porté principalement sur les majeurs, avec peut-être un ou deux autres éléments traces, et ça marchait parfaitement pour séparer ces deux minerais. En revanche, quand la question a consisté à comparer cette minette de Lorraine à d'autres minerais du bassin lorrain, mais également de manière plus large, comme l'a évoqué Stéphanie, d'autres régions de production, il a fallu, et ça a été les travaux de la thèse d'Alexandre Disser, ceci depuis 2010, mais ça continue, élargir aux éléments traces, et notamment les terres rares, et au moins une dizaine d'éléments traces ont été considérés pour des intercomparaisons, ici en utilisant des méthodes statistiques assez basiques, comme l'analyse en composantes principales, mais vous avez en orange ici les scories correspondant à la minette de Lorraine issue des travaux de à la fois de la base Palside et de Cécile Maé et d'Alexandre et les autres signatures chimiques des différentes autres minerais lorrains. Je rentre pas dans le détail. Les carrés que vous voyez ici sont ceux correspondant à la composition des inclusions des agrafes de la tour de Mut. On voit donc ici un élargissement du référentiel avec l'élargissement des questionnements. Alors, ça a été évoqué un petit peu par Stéphanie, c'est vrai que certaines de ces approches, notamment d'intercomparaison statistique, comportent certaines limites du fait de la nature des référentiels, du fait qu'ils soient partiaux, qu'on n'ait pas l'ensemble des données, et qu'on va comparer également des inclusions microscopiques, donc des résultats d'analyse microscopique, à des scories macroscopiques. Et là, on vous a montré des cas qui fonctionnaient bien, mais se pose un certain nombre de cas tangents avec des risques d'erreur d'attribution d'analyse prédictive. Alors pour ça, pour contrer ces approches-là, il peut y avoir différentes stratégies ou évolutions méthodologiques, et c'est le cas de ce qui a été fait par Émile Bérard lors de sa thèse sur la circulation des armures milanaises, sa thèse et son post-doc d'ailleurs, où là, elle a créé un référentiel à partir des objets eux-mêmes, à partir d'armures milanaises dont le poinçon permettait de les relier sans ambiguïté à une zone de production. Nous sommes là au XVIe siècle, et ce sont les inclusions des armures qui ont constitué le référentiel en lui-même qu'elle pouvait comparer directement avec la signature chimique d'autres armures. Donc là, ici, une évolution méthodologique par rapport pour répondre à certaines limites de l'approche, la représentativité du référentiel dont vous a parlé Stéphanie.
Alors pour effectivement étudié hein, ces relations finalement entre sites et entre vestiges matériels, on peut aussi observer ça une fenêtre d'analyse à l'échelle d'une fenêtre d'analyse plus large, puisque les études de provenance s'intègrent finalement au sein de recherches, comme l'a dit Philippe en début de présentation, qui tendent plus largement à documenter les réseaux de production et de circulation du fer. Elles sont de plus en plus souvent inscrites, ces études de provenance, donc dans la diachronie, et sont étendues aussi à des échelles spatiales plus larges, aussi et surtout pour être en mesure de saisir les particularités ou les changements dans le temps et dans l'espace. Et ce type de recherche amène à étudier en plus hein, des relations chimiques et donc à proposer des classifications chimiques, à combiner ces classifications avec d'autres types de données, comme les données chronologiques, les données spatiales ou les données typomorphologiques, pour n'en donner que des exemples, qui vont permettre d'enrichir et de préciser d'autant plus les liens qui existent entre les sites et les vestiges. Et l'approche ici qu'on met de plus en plus en application, elle est ici comparatiste et structurelle de part en part, et ça nécessite surtout de construire et de mettre en relation différents types de référentiels. Diapo suivante. Et ce type d'approche est testé depuis quelques années, et je donne ici l'exemple hein, d'une recherche qui s'intéresse à l'industrie du fer au Cambodge et qui cherche précisément à documenter ces réseaux hein, sous le prisme de la production et de la circulation des produits dans l'Empire Khmer entre le 9e et le 15e siècle. Donc ici, on a vraiment une période chronologique large. Et depuis 2013, et surtout grâce à des collaborations interdisciplinaires fortes, nous sommes amenés à construire et mobiliser différents types de référentiels d'études, comme on peut le voir ici, et qui sont en fait définis eux-mêmes par des ensembles, par des données variées par nature. Et la combinaison des données, ou plutôt la mise en relation des données qui constituent ces référentiels, permet de proposer a posteriori des modèles de trajectoires spatio-temporelles des procédés et des produits. Et il est surtout intéressant de noter, sans entrer trop dans le détail, que le résultat finalement de ce type d'approche, hein, de mise en relation des référentiels, permet finalement de créer de nouvelles classifications qui sont plus globales, plus englobantes, je vais dire, et qui deviennent finalement à leur tour des référentiels pour d'autres types de comparaisons.
On voit bien ici, et je vais dire quelques mots maintenant sur les bases de données. Alors, il y a eu de très nombreux travaux depuis les travaux un peu fondateurs dans les années 90, notamment faits par Alain Ploquin autour de la base PALSID. Depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, plusieurs espaces ont été étudiés et des bases de données ont été constituées. Et on voit bien qu'on a un enjeu aujourd'hui de rassemblement de ces bases de données, qu'on essaye de faire, c'est une collaboration entre le LAPA et ARSCAN au sein de ce que nous avons appelé la base CHIPS, qui est coordonnée par Alexandre Disser, qui contient aujourd'hui 1300 sites enregistrés et que nous comptons mettre enregistrés et publiés et que nous comptons mettre en ligne sur Humanum dans les prochains jours, les prochaines semaines. Alors cette question de la base de données, vous voyez, éminemment hétérogène, c'est vraiment le pari de l'avenir. De réussir à créer une base de données qui va devenir un référentiel homogène d'analyse chimique en lien avec les données archéologiques des sites. Et en fait, c'est une base de données qui est un réceptacle de données, mais qui va contenir finalement en elle-même plusieurs types de référentiels qui correspondent aux questionnements que nous avons évoqués tout au long de cette communication. Et donc, on voit bien ici qu'il y a un jeu entre le thésaurus de la base de données et le type de référentiel que l'on désire exprimer et qui peut être multiple à notre sens en fonction des questionnements. Alors, ce qui nous amène à conclure, j'espère qu'on vous a réussi à vous montrer un peu les différents aspects du référentiel chimique pour la provenance des objets ferreux. C'est un objet dynamique, d'une part de par sa construction avec son caractère cumulatif, par sa problématisation avec ses approches variables, et par son interprétation des données en lien avec la variabilité des bases de données et des thésaurus potentiels. Voilà, on vous remercie pour votre attention.